Chapitre 2. Comment choisir son futur conjoint? Le témoignage donné dans mon premier livre, Une vie en couleur, inclut ce sujet. J'aimerais ici en rappeler quelques lignes pour ensuite en tirer les principes qui nous ont le plus aidés, ma femme et moi. Pendant mes deux premiers séjours en Afrique, l'un de 3 mois et le suivant de 15, la question du mariage ne me préoccupa guère. J'avais environ 22 ans et j'estimais qu'il fallait vivre à fond pour Christ. Les passages bibliques où Paul évoque sa vocation de célibat me parlaient beaucoup. Je faisais mienne sa devise « Tout faire pour le salut du plus grand nombre ». 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. C'était, et c'est toujours, le but vers lequel je cherche à orienter ma vie. Ma prière au sujet du mariage se résumait donc ainsi. Seigneur, si le célibat peut me permettre d'amener ne serait-ce qu'une seule personne de plus dans ton royaume, je veux rester célibataire. Dans le cas contraire, permets que je me marie. Quelque temps plus tard, un jour de congé, je rencontrai au bord d'une piscine un vieil évangéliste bien connu qui m'avait déjà reçu chez lui. À brûle-pourpoint, il me lança. Alors, Carlo, tu n'es toujours pas marié? Ne sais-tu pas que 1 peut en vaincre 100 et 2 10 000? Sans s'en rendre compte, il apportait une réponse non pas universelle, mais personnelle à ma question. Il me donnait un éclairage qui révélait la synergie d'une union selon Dieu. De retour sur le vieux continent, mes responsables se consultèrent pour savoir s'il était temps de me confier la responsabilité des équipes d'évangélisation en Europe francophone. En priant, ils reçurent un texte quelque peu surprenant. Il faut donc que le dirigeant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. 1er Épître à Timothée, chapitre 3, verset 12. Quand on m'en informa, je rétorquai que Paul faisait certainement allusion à la polygamie, étant lui-même célibataire. Mais ils avaient la pensée que Dieu m'avait préparé une aide comme partenaire, qui m'épaulerait dans ses responsabilités. L'orientation entre célibat et mariage semblait se préciser. Mais comment découvrir celle que le Seigneur me destinait? À ce moment-là, je réalisai une chose évidente et pourtant fondamentale. Ma future épouse, sans que je sache le moins du monde qui elle était et où elle se trouvait, vivait quelque part sur la planète, n'y était, elle, bel et bien connue de Dieu. Elle avait donc aussi de son côté ses questions, ses espérances, ses choix à faire, et devait gérer 1001 aspects de l'existence que je pouvais porter devant le Seigneur par la prière. Il nous préparait chacun de notre côté, en nous donnant de grandir en maturité, en attendant le moment de notre future rencontre. Mais ce qui me protégea vraiment de graves erreurs, d'errances et de voies sans issue, fut un autre principe tout aussi simple. Nous sommes créés corps, âme et esprit. Par conséquent, pour qu'un couple soit solide et épanoui, il doit vivre une alliance à 3 niveaux. Je compris que dans le plan du Créateur, un homme et une femme qui envisagent de s'unir pour la vie doivent bien sûr se plaire, s'apprécier, se désirer physiquement. Pourtant, cette merveilleuse réalité est insuffisante en soi, car elle ne représente que le lien du mariage au niveau du corps. En second lieu, ils doivent être les meilleurs amis au monde, non seulement avant, mais surtout après le mariage. Ils se compléteront harmonieusement sur le plan psychique, quant aux objectifs poursuivis, quant à la manière de penser et de ressentir les choses. Il sera bon qu'ils puissent rire et pleurer ensemble, se divertir et apprendre, s'enthousiasmer et travailler côte à côte avec plaisir. Cet attachement au niveau de l'âme constitue le second lien du mariage. Enfin, sur le plan de l'esprit, le couple, selon Dieu, se complète au niveau de son appel, sa vocation, son ministère et ses dons. J'y ai vu cette corde à 3 brins qui ne se rompt pas facilement, dont nous parle l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. C'était là ma référence, comme le fil à plomb pour le maçon, durant ses années d'attente. L'été 1979 approchait avec le service d'été en Avignon. Je fis une prière pour le moins cavalière. Seigneur, je te demande de placer ma future épouse dans ma cellule de prière. Mon excitation fut bien vite calmée en découvrant que je n'étais pas inclus à une cellule, mais responsable d'un groupe, c'est-à-dire que j'avais à veiller sur 6 cellules distinctes. Tant pis, me suis-je dit, cette prière ne devait pas être inspirée. En septembre, je me retrouvai à la conférence annuelle des membres du personnel de Jeunesse en Mission, où je fis à nouveau une prière qui semblait audacieuse. Seigneur, si ma future femme est ici, montre-la-moi. Nous étions 120. Je décidai de partir me promener dans le bois voisin pour continuer mon dialogue. En descendant l'escalier qui donnait sur la cour, je saluai Michel Yapoudjian, incident anodin en apparence puisque nous avions déjà fait en commun un voyage de 2 mois en Afrique. Mais son visage me resta présent à l'esprit alors que je commençais à prier. Dieu, j'en ai aujourd'hui la conviction, me rappela alors l'engagement total de Michel dans l'évangélisation, sa joie communicative et son zèle dans la prière. Je compris qu'elle serait une amie, mon amie, et soudain je tombai amoureux d'elle, comme je n'imaginais pas que ce fût possible. Elle devint subitement la plus jolie fille de l'univers. Pour la première fois, je percevais la corde à 3 brins. Il m'était arrivé de penser à d'autres jeunes filles, mais il manquait toujours 1 ou 2 brins. Un détail d'Avignon me revint alors à la mémoire. Michel était l'un des 6 chefs de cellule dont j'étais le berger. Je l'avais, de ce fait, souvent côtoyé. Le temps de Dieu à ce moment-là n'était probablement pas encore à son terme. Mais ce 22 septembre 1979, je ne marchais plus, je volais. Les règles internes à notre mission m'interdisaient d'en parler sur le champ, notamment à Michel. Quelle épreuve! Je passais donc des heures seul à prier pour l'avenir. Je savais qu'elle quittait Jem pour reprendre son travail d'assistante sociale dans la région parisienne. Quand la reverrai-je? Je demandai au Seigneur un encouragement. Au dernier repas, nous nous répartîmes autour d'une 20aine de tables. Je m'assis à côté d'un ami de longue date. La place située à ma droite était encore vide. Quelqu'un prit alors la parole. « J'ai réservé cette place pour Michel. Je n'ai pas pu la voir durant tout le week-end. » Mais pas de Michel à l'horizon. Après la prière, la voici qui entre dans la salle à manger, et son ami n'hésite pas à lui faire de grands signes pour lui indiquer sa place. C'en était trop. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre. J'en avais l'appétit coupé. J'arrivai cependant à échanger quelques mots avec elle, comme un bon leader doit le faire envers son ex-équipière. Michel m'a avoué par la suite qu'elle avait terriblement faim, mais n'osait pas se resservir devant un garçon si frugal. J'avais, entre-temps, déjà fait part de l'événement à mes responsables qui m'avaient promis de prier à ce sujet dans les jours à venir. Mais jusque-là, motus et bouche cousue. Qu'allait-il donc penser en nous voyant attablés l'un à côté de l'autre? Michel partit sans que je puisse la saluer. Elle ne pouvait tout de même pas dire au revoir à 120 personnes. 5 jours plus tard, mes responsables me dirent être en paix à la pensée de ce projet. Mais il ne fallait pas, pensait-il, que cela influence Michel quant à la reprise de son travail. Ils me demandèrent donc d'attendre quelque peu avant de lui écrire. Si vous voulez tout savoir sur cette première correspondance, je vous laisse le loisir de la consulter aux pages 66 à 68 de l'ouvrage mentionné plus haut. Reprenons ces étapes en cherchant à comprendre les principes qu'elles renferment pour nous aider à faire le bon choix. Quelle est la motivation de votre vie? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, verset 4. Vouloir son conseil pour réussir son mariage implique de faire passer Dieu avant celui-ci. C'est une condition pénible et presque impossible à remplir pour ceux qui voient Dieu comme un être inhumain, ennuyeux, rabat-joie, trop vieux, rancunier et religieux. Mais c'est un privilège immense pour ceux qui savent que Dieu est un océan de bonté, qu'il est passionnant, pragmatique, dynamique, innovant et spirituel. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut être mon disciple. Évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. Chaque molécule de notre être est conçue et maintenue par son fabricant. Il nous connaît dans les moindres détails. Il comprend les tenants et aboutissants de tous nos choix. Il sait comment fonctionne notre personnalité et notre caractère. Une voiture qui bénéficierait de l'entretien personnalisé de son constructeur, ou un ordinateur qui serait géré par son concepteur, seraient des instruments très privilégiés. C'est le cas de ceux qui s'adressent à leur Créateur pour recevoir ses conseils. Apprends-moi à vivre est une excellente prière, pour autant qu'elle s'adresse à notre Père. Pourtant, si nous ne voulons pas de ses conseils, il nous laisse entièrement libres. Votre amour pour Dieu doit surpasser votre amour pour le mariage. Le propre de l'homme charnel est d'adorer la création à la place du Créateur. Le mariage est une création de Dieu. Pour qu'il le conduise et le bénisse, il ne doit pas devenir un objet de culte. Célibat ou mariage? Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, a accepté sa condition de célibat. N'était-il pas épanoui pour autant? Était-il une moitié errante, cherchant l'âme sœur? A-t-il exigé de son père d'être marié avant d'entrer dans le ministère? Se considérait-il comme handicapé dans sa mission par rapport au prophète marié? Il savait que le plan de Dieu lui réservait quelque chose de meilleur, une alliance éternelle avec le peuple de Dieu tout entier. Il a répondu à ses disciples qui l'interrogeaient au sujet du célibat. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques, en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres, enfin, ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 6. Si le mariage est la voie habituelle du disciple, celle du célibat ne peut être évacuée pour autant. Demandez à Dieu son choix pour votre vie, c'est vous assurer d'entrer dans le meilleur. C'est poser un fondement bien plus sûr que de choisir par vous-même le mariage ou le célibat, en lui demandant ensuite de bénir votre choix. En parlant du célibat, Paul écrit « Je préférerais que tout le monde soit comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé, l'un ce don-ci, l'autre ce don-là. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7. Dans ces deux passages, le contexte insiste sur le fait que le mariage est un don, tout comme le célibat. La souplesse, avant de découvrir notre don, est par excellence l'attitude vers laquelle tendre et se maintenir. Être prêt au célibat est une bonne préparation au mariage. Être prêt au mariage est une bonne préparation au célibat. Seigneur, montre-moi le don que j'ai reçu. Si le célibat a souvent été regardé comme un état permanent, il se vit aussi et plus fréquemment encore comme une saison, une étape, une préparation. C'est ce qui nous amène au point suivant. Quel est le moment favorable pour entamer des fréquentations? La réponse biblique à cette question ne porte pas sur l'âge, mais sur la disposition de cœur. Vivre à fond et intelligemment ces années de célibat est une bonne façon de se préparer à des fréquentations heureuses. Fréquenter prend un temps et une énergie considérables. Les films, les romans, la publicité, les jeux télévisés, nos amis et parfois même nos parents et le pasteur s'unissent pour nous dire « Il est normal d'avoir presque en permanence un ou une petite amie. » Cependant, trouver quelqu'un, fréquenter, se disputer, se séparer, pour ensuite trouver quelqu'un d'autre, à nouveau fréquenter et se disputer, etc., n'est ni un cycle, ni obligatoire, ni même éducatif, mais usant, frustrant et blessant. Certaines blessures, loin d'être instructives, laissent des cicatrices profondes qui peuvent mettre des années à guérir ou ne pas guérir du tout. Il est d'autant plus difficile de résister à ce schéma quand les conseils deviennent moqueries ou suspicions. Je me rappelle certaines boums de fin de scolarité où celui qui, après une heure de danse, n'avait pas une fille sur ses genoux, faisait tapisserie. Combien de personnes, aujourd'hui mariées, se souviennent d'années gâchées par des fréquentations pénibles, des espoirs déçus, des doutes à n'en plus finir, des séparations amères, jusqu'au moment où enfin une relation heureuse s'est établie. On essaye parfois de justifier ces périodes en leur attribuant valeur d'expérience et de maturation, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voici un passage de l'Écriture où Paul aborde ce sujet. J'aimerais que vous soyez libre de tout souci. Un homme qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme, et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde, et elle cherche à plaire à son mari. Je dis cela pour votre bien, et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous viviez de la façon qui convient le mieux. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. Il y a donc un temps pour tout, et même pour ceux qui sont appelés au mariage, et qui glorifieront Dieu, donc Dieu par lui. La période du célibat est présentée par l'Écriture comme particulièrement précieuse pour grandir en Christ. Cette formidable énergie disponible pourra prendre des formes aussi variées qu'utiles. Séjour linguistique, spécialisation et diplôme, mission, coopération, brevet, stage pratique, bénévolat, sport, voyage et découverte, avec une liberté et dans des conditions qui fondront comme neige au soleil quelques années plus tard. Suivre la direction divine dans ces étapes sera une source inestimable de satisfaction. Par ailleurs, on se marie souvent dans les milieux que l'on fréquente. Un jeune homme et une jeune fille qui ont compris le remarquable potentiel de ces années de célibat et l'auront vécu pleinement risquent de s'y rencontrer. Il en sera de même pour ceux qui auront traîné dans les bistrots du coin et autres boîtes de nuit, en passant d'une amourette à l'autre. N'est-il pas étonnant que dans l'hymne à l'amour, qu'est le livre du Cantique des Cantiques, il soit répété à trois reprises « Je vous le demande instamment, n'éveillez pas l'amour, ne le provoquez pas avant qu'il y consente. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 7, 3, verset 5, 8, verset 4. Lorsque nous sommes excités par un départ en voyage et que nous réglons le réveil pour 4 heures du matin, il arrive que l'on se réveille une dizaine de fois avant l'heure ou que l'on dorme profondément jusqu'à la sonnerie. Que préférez-vous? Pour ma part, je préfère passer une bonne nuit et me réveiller pour découvrir que le jour J a commencé. Le voyage n'en est que plus agréable. Il en est de même pour le mariage. Évitons les faux réveils qui fatiguent et ternissent l'enthousiasme quand sonne l'heure du vrai départ. Les trois rôles de la prière. A. Une préparation au bon choix. À l'arrivée de sa future épouse, Rebecca, Isaac méditait dans les champs. Genèse 24, verset 63. Ce mariage, bien que très différent sur le plan culturel de ceux d'aujourd'hui, a été remarquablement bien préparé. On y ressent, à travers l'initiative de son père Abraham, le voyage réussi de son serviteur Eliezer, la rencontre avec la future belle-famille et, finalement, le consentement de la jeune fille, la puissante action de l'Esprit de Dieu. Il est légitime de penser que la méditation quotidienne d'Isaac en est l'une des origines, sinon la principale. Son dialogue avec Dieu, source de maturation et de transformation, conformément à 2 Corinthiens 3:18, a été la meilleure préparation au bon choix. Sans cela, il aurait certainement déjà épousé une femme selon son penchant naturel, comme le fera Ésaü, son fils, quelques années plus tard. Genèse 27, verset 46 et 28, verset 6 à 9. Avant de commencer des fréquentations, tout disciple de Christ devrait se poser deux questions capitales. 1. Suis-je prêt ou prête à faire la volonté de Dieu dans la carrière qu'il a pour moi, conformément à Hébreux 12, verset 1. 2. Suis-je prêt à lui faire confiance pour qu'il me guide vers l'époux ou l'épouse qu'il me réserve afin de vivre une synergie à son service? La plupart des choix courageux et décisifs se font à ce moment-là. Une fois marié, logé, meublé, salarié, avec un premier enfant à naître, une réorientation est beaucoup plus difficile à envisager. Elle devient quasiment impossible si l'un des partenaires n'est pas totalement consacré à Jésus-Christ. Mariage et carrière professionnelle, bien que celles-ci puissent être infiniment diverses, tout en étant dans le plan de Dieu, sont souvent étroitement liées. Un couple tiraillé entre le Dieu de ce siècle et le Saint-Esprit se prépare au mieux une vie maussade, étant donné que nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Matthieu 6, verset 24. Le but de tout disciple n'est pas d'être dans la volonté permissive de Dieu, mais dans sa pleine volonté. Beaucoup suggèrent aujourd'hui que le rôle de Dieu est de bénir ce que les hommes ont uni, et dans sa bonté et son humilité, il le fait. Mais le discours de Jésus est tout autre, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. Cependant, demanderont certains, n'y a-t-il qu'une seule personne sur terre que Dieu a prévue pour moi? Cette question a fait couler beaucoup d'encre et a probablement été l'objet de débats passionnés. Je crois qu'une position trop catégorique, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas satisfaisante. D'une part, il paraît clair que celui qui connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur nos têtes a une volonté première et parfaite pour chacun de nous. Le mariage n'est une question ni secondaire ni futile. Notre Père Céleste a certainement dans sa pensée un plan précis pour celui-ci. D'autre part, la désobéissance humaine n'est pas du badinage, elle attriste réellement Dieu, conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37. La personne qu'il vous destine est libre de gérer sa vie avec tout ce que cela implique. Pour ne citer que les choix les plus en rapport avec la question, on peut citer la résistance à la conviction de l'esprit en vue de la conversion, une attitude de libertinage ou un mauvais mariage. Que se passe-t-il si la personne que Dieu vous destine épouse quelqu'un d'autre, se suicide ou part comme chercheur d'or en Alaska? Êtes-vous condamné au célibat? Non, car Dieu est précisément celui qui recrée et établit de nouveaux plans, malgré et à cause de la désobéissance humaine. D'autres diront, « Je pense être appelé au mariage, mais je ne trouve personne. » Les qualités de Rebecca, que chacun peut méditer, donnent certainement une part de réponse à cette remarque. Elles sont loin d'être négligeables et sont aussi valables pour les hommes. Voici celles qui ont retenu mon attention. Rebecca prenait soin de son aspect physique. Elle s'est gardée sexuellement pure pour l'être aimée. Elle était travailleuse et fidèle dans l'ordinaire. Elle était serviable. Elle a fait preuve d'initiative et avait du caractère. Elle était courageuse. Genèse 24, versets 16 à 21, versets 24 à 25, versets 28, versets 58. B. Prier pour son futur conjoint. Comme déjà mentionné, cette prière s'appuie sur un fait très simple. Si Dieu vous appelle au mariage, votre futur époux ou épouse existe quelque part sur cette planète. Il n'est pas du tout nécessaire de le ou de la connaître pour prier pour lui, pour elle. Pour ne mentionner que quelques sujets parmi de multiples possibilités, Je vous suggère de prier pour six choix essentiels, crainte de Dieu, certitude, temps favorable, perspicacité, courage, sa maturité, développement du caractère, fidélité, service, zèle, prise de responsabilité, sa santé, protection, épanouissement, force, sagesse, guérison, sa formation, complète, de qualité, persévérante, avec des portes ouvertes, couronner le succès, sa famille, unité, complémentarité, avenir, bénédiction. C. Être présent sur le champ de bataille. Un mariage réussi est une bataille gagnée et non une évidence. Il faut cependant avouer qu'un pessimisme malsain et exagéré, dénigrant le mariage, a dominé l'information ces dernières années. Cette tendance décourage et fait peur, alors qu'un diagnostic réel, tout en dévoilant les plaies, nous stimule à relever le défi. Voici un extrait d'un article de fond sur la famille et le mariage, paru le vendredi 12 juin 1998 dans le journal Le Monde. En France, dans les années 60, un mariage sur 10 était susceptible de se terminer par un divorce. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'un sur 3. Contrairement à l'idée reçue d'une envolée constante, nuance Irène Théry, le nombre de ruptures de couple avec enfants est stable depuis une dizaine d'années. Le ménage qui dure demeure le modèle dominant. En 1994, 74% des hommes de 40 à 44 ans et 80% des femmes du même âge vivaient en couple avec leur premier conjoint ou n'avaient vécu en couple qu'une seule fois, ce qui permettait à la très grande majorité des enfants mineurs, 83% en 1994, de vivre avec leurs deux parents. Ces données n'ont aucune commune mesure avec ce qu'on voudrait nous faire croire. Les statistiques varient d'un pays à l'autre, mais, malgré le drame de tant de couples brisés, il faut aussi dire la vérité à ceux qui envisagent aujourd'hui le mariage. Si, dans la société occidentale, 4 d'entre eux sur 10 se terminent par le divorce, il est aussi honnête de relever que 6 sur 10 durent toute la vie. Les divorces parmi les disciples de Christ représentent quant à eux un pourcentage bien inférieur. N'insistez que sur le verre à moitié vide ne va en aucun cas le remplir. Certains chrétiens pensent qu'un discours alarmiste qui a tendance à gonfler les problèmes va contribuer à mobiliser le peuple de Dieu. C'est exactement le contraire qui se produit. L'espérance faiblit et, avec elle, le courage, la combativité et la vie de prière. Un peu plus de 4 millions de personnes en France vivaient en concubinage en 1998. C'est énorme, certes, mais cela ne représente que 14% des couples. Selon une enquête menée par l'Institut national d'études démographiques, INED, en 1986, seuls 6% des concubins déclaraient refuser le mariage, donc moins de 1% de la population en général. Si nous prenons la température de la société par le discours médiatique habituel, nous croirons que l'adultère est le tribut commun des couples mariés, que le concubinage est majoritaire et que le mariage est un acte ringard en voie de disparition. Mais toute analyse sérieuse le dément. Les mariages ont augmenté en nombre en France de 1987 à 1997. Si nous prenons encore l'exemple de la lutte contre le sida, il est tout simplement scandaleux que les médias taisent le fait que la majorité des couples sont fidèles et que c'est la raison première d'une victoire possible sur ce fléau. Cela dit, les puissances ténébreuses se savent menacées par les couples prophétiques qui se lèvent par milliers et qui ont décidé de vivre comme une lumière pour Christ dans la société. La sexualité et le désir de trouver l'âme sœur sont des forces puissantes et sensibles, où les voies sans issue et les raccourcis sont parfois bien plus tentants que la voie royale préparée par le Seigneur. Ces données, et une bonne connaissance de soi, doivent nous conduire à cultiver une intercession vigilante. On épouse un être complet, corps, âme, esprit. Ce concept, déjà mentionné, fera l'objet de trois chapitres centraux dans ce livre. C'est l'un des critères fondamentaux dans le choix du conjoint. Beaucoup de mariages font naufrage aujourd'hui parce qu'ils se fondent au départ sur un ou deux liens plutôt que trois. Il y a des personnes pour penser que si elles confient leur mariage à Dieu, elles devront épouser quelqu'un de moche, d'austère et d'ennuyeux. Quelle triste image de son fondateur! La Bible dit au contraire, celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Autant le Seigneur s'est plu à faire du bien à vos ancêtres, autant il se plaira à vous en faire. Deutéronome 30, verset 9. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Nous sommes tous uniques, et nos centres d'intérêt ne sont heureusement pas uniformes. Si la chose est incontestable sur le plan physique, nous avons également une personnalité bien marquée et, de ce fait, nous ne développons pas des amitiés profondes avec tout le monde. Une communion d'esprit harmonieuse dépend d'un appel, d'un engagement et d'un cheminement commun avec le Seigneur. Tel jeune homme trouvera cette jeune fille superbe et très consacrée, mais ses centres d'intérêt et sa vision de la vie familiale rendront difficile, voire impossible, une éventuelle alliance. Telle jeune fille trouvera ce gars fort sympathique, ils seront de bons amis et serviront Dieu avec le même zèle, mais il ne lui plaira pas sur le plan physique. Le rôle d'un berger. Certains croyants cherchent conseil pour l'achat d'un téléphone portable, pour le choix d'une école de langue ou même pour la marque de leur basket. Mais ils s'enferment dans une tour d'ivoire pour la question la plus importante après le salut, celle du choix de leur conjoint. Paradoxalement, le besoin de conseil est quasiment inné dans cette saison de la vie. Ceux qui ne le comprennent pas seront tentés de chercher conseil, parfois presque à leur insu, auprès du premier venu. Ils se confieront alors pour assouvir leurs besoins bien réels de sécurité à des gens immatures et sans grande affection pour eux. Cependant, comme on le sait, on ne va pas chez le mécanicien pour se faire arracher une dent, et encore moins chez le vétérinaire pour se faire opérer. Bien, me direz-vous, être conseillé, d'accord. Mais par qui? Ce ne sera pas toujours le pasteur principal de votre communauté qui sera le conseiller idéal, surtout s'il doit veiller sur 200 ou 300 personnes et ne vous connaît guère que plus que par une poignée de main à la sortie du culte. Mais ce doit être une personne mûre en Christ, qui vous connaît bien, vous aime beaucoup et désire réellement que vous réussissiez votre vie et votre mariage. Il est absolument normal qu'une telle personne vous soutienne dans cette étape. Ce n'est pas une corvée, mais un privilège. Si un berger n'était pas de mon conseil pour une décision aussi vitale, à quoi servirait-il donc? Le rôle de ce conseiller, ou de ce couple conseillé, sera de vous poser les bonnes questions, de répondre aux vôtres et surtout de prier afin de discerner la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas pour lui de vous donner des directives, celles-ci doivent être reçues par vous seul, mais de partager confirmation ou infirmation au sujet de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. À quel moment sera-t-il bon de recevoir ces conseils? Pour ma part, la réponse est évidente. Le mieux sera de demander conseil avant de commencer les fréquentations. Pourquoi? Parce que lorsque nous fréquentons la jeune fille ou le jeune homme de notre choix, nos sentiments sont déjà branchés sur 100 000 volts. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous tient. Elle est une flamme ardente. Elle frappe comme la foudre. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6b. Une fois l'amour réveillé, le seul conseil supportable et audible à nos oreilles est « Super, vas-y !» Le problème vient alors de notre conscience qui ne nous laisse pas en paix et des doutes qui nous réveillent la nuit. Nous sommes piégés, car nous savons bien que nous aurions besoin de confirmation. Mais le « oui » sonne comme une flatterie et n'est pas rassurant du tout, alors que le non est insupportable. Qu'ils viennent de Dieu ou des hommes, les conseils à ce moment-là sont comme voilés. Nous avons considéré jusqu'ici différents principes qui constituent les fondements d'un choix selon Dieu pour débuter des fréquentations heureuses. Comme nous le verrons, fondements et fréquentations sont complémentaires. Certains chrétiens mettent une telle emphase sur les fondements qu'ils en viennent à considérer le temps des fréquentations comme une formalité négligeable. D'autres, plus nombreux, négligent les fondements et essayent gauchement de les intégrer dans des fréquentations chaotiques. Ces deux tendances affaiblissent et souvent attristent une relation qui pourrait par ailleurs être si belle. Des fondements solides, suivis de saines fréquentations, épargnent bien des soucis et donnent à la joie sa pleine mesure. Avant de terminer ce chapitre en décrivant les étapes à vivre, maintenant à deux, résumons la préparation individuelle que nous avons étudiée jusqu'ici. Votre bonheur. Il dépend d'un amour vrai qui se donne. La convoitise qui se sert de l'autre et le manipule n'engendre que frustration. Vos motivations. Votre amour pour Dieu et sa volonté pour votre vie doit dépasser votre désir de vous marier. Le célibat et le mariage sont tous deux un don. Demandez à Dieu quel est son choix pour vous, si vous assurez d'entrer dans le meilleur. Le moment favorable pour entamer des fréquentations. Trouver quelqu'un, fréquenter, se disputer, se séparer, trouver quelqu'un d'autre, fréquenter, etc., n'est pas un cycle inéluctable ni même instructif, mais usant, frustrant et blessant. Vivre à fond et intelligemment ces années de célibat est une bonne façon de se préparer à des fréquentations heureuses. Les trois rôles de la prière. 1. Une amitié fidèle avec Dieu est source de maturation et de transformation. C'est la meilleure préparation au bon choix. 2. Votre futur époux ou épouse existe quelque part sur cette planète. Il n'est pas du tout nécessaire de le ou la connaître pour commencer à prier pour lui, pour elle. 3. Un mariage réussi est une victoire remportée et non une évidence. Les puissances ténébreuses se savent menacées par les couples engagés qui se lèvent prophétiquement par milliers afin de vivre comme une lumière pour Christ dans la société. On épouse un être complet, corps, âme, esprit. Un mariage solide est une alliance à trois niveaux. Le rôle d'un berger. Il ou elle doit être une personne mûre en Christ qui vous connaît bien, vous aime beaucoup, et désire réellement que vous réussissiez votre vie et votre mariage. Fréquentation, fiançailles, mariage. Ce domaine est en partie influencé par le contexte socio-culturel. C'est pourquoi les réflexions qui vont suivre ont été partiellement façonnées par mon héritage personnel. Si nous reprenons l'exemple d'Isaac, fils d'Abraham, nous voyons qu'il n'a pas fait la connaissance de sa femme avant le mariage. Mais aujourd'hui, même parmi les peuples, pratiquant encore les mariages arrangés par les parents, ce cas est de plus en plus rare. Le brassage des cultures et la migration vers les villes en sont deux raisons parmi d'autres. La Bible, cependant, parle fréquemment de fiançailles, et il est légitime de penser qu'un temps de proche amitié ou de fréquentation les ont précédés. La progression, fréquentation, fiançailles, mariage, n'est donc pas l'exclusivité de la pensée occidentale. Cette triple progression, en connaissance, en assurance et en intimité, est source de plénitude et de sécurité. Au fur et à mesure que nous faisons connaissance, notre assurance d'avoir fait le bon choix, avec des hauts et des bas auxquels aucun couple n'échappe, grandira. L'assurance d'être dans le plan de Dieu donnera naissance à une intimité grandissante. Celle-ci, pour être saine et heureuse, devrait toutefois inclure deux aspects simples et fondamentaux. Ne pas mettre mal à l'aise le partenaire le plus réservé, c'est-à-dire ne pas faire violence à sa conscience. Ne pas comporter d'attouchements sexuels, qui, eux, sont réservés au mariage. Ah, les fréquentations. Elles sont un temps de découverte de l'autre et donnent une large part à l'amitié. Se retrouver, tiré à quatre épingles pour un repas aux chandelles, est certes très romantique, mais totalement insuffisant. Pour développer une amitié dans une réelle connaissance de l'autre, il faudra aussi travailler de concert, étudier ou lire ensemble, se côtoyer en état de fatigue, de stress ou en pleine forme, se compléter dans des fonctions de responsabilité, vivre au contact des autres, faire face à des défis financiers ou de santé, jouer, gagner et perdre, se retrouver en montagne ou à la piscine, etc. Ce sera aussi le temps d'aborder progressivement les grands thèmes de la vie et de confronter ses idées et vues du monde et de l'actualité. Comme dans toute relation, et malgré des fondements sérieux, ce premier bout de chemin à deux peut se révéler douloureux, au point qu'une pause ou une rupture soit envisagée. L'amour vrai ne peut se bâtir que dans la liberté. Cela dit, la plupart des couples verront leur amitié s'épanouir et leurs sentiments s'approfondir. Bientôt viendra le jour où la pensée du mariage sera aussi naturellement que sérieusement abordée, et avec elle, le moment de parler fiançailles. B. Les fiançailles. Le temps des fiançailles est une préparation au mariage. Il y a une place pour les fréquentations et une place pour les fiançailles. Les couples qui mélangent tout risquent de tout vivre de travers. Être follement amoureux peut nous faire oublier que le mariage est aussi une alliance familiale. Épouser quelqu'un, c'est s'allier à une nouvelle famille. Celle-ci a ses habitudes, ses relations, ses traditions, ses forces, ses faiblesses et souvent ses exigences, évidentes ou cachées. Il est normal que les fiançailles comportent une part de découverte mutuelle de la famille du futur conjoint et, dans une certaine mesure, des familles entre elles. Regardons quelques passages bibliques au sujet des fiançailles. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. Osée, chapitre 2, versets 21 à 22. Ce passage où Dieu, prenant le rôle du fiancé, parle à son peuple, n'est-il pas étonnant? Les fiançailles ne sont pas des escaliers roulants qui mènent automatiquement au mariage, mais un temps où chaque partenaire affermit activement son amour pour l'autre. Quel bonheur pour la jeune fille de voir son fiancé gagner pleinement son cœur par la loyauté, la justice, l'amour, la tendresse et la fidélité. Voilà une dot que ni l'argent, ni les traditions, ni les innovations ne pourront jamais remplacer. Ces cinq qualités sont autant de piliers qui apportent une pleine sécurité à la future épouse et lui permettent de se réjouir sans réserve de l'avenir. Le fiancé devrait s'en imprégner. La fiancée a-t-elle un défi plus facile à relever? Il, donc Christ, a voulu que cette église fût placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte et irréprochable. Éphésiens 5, verset 27. Quel honneur pour le jeune homme de voir sa fiancée resplendissante, cultivant la beauté, la sainteté et l'excellence. C'est un cadeau inestimable que la fiancée peut préparer pour celui qu'elle aime. La joie qui en jaillit est prise en exemple pour exprimer à la fois les sentiments de Dieu envers son peuple et ceux de celui-ci envers son Créateur. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, verset 5. Mon Dieu me remplit de bonheur. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée qui s'est parée de ses bijoux. Ésaïe 61, verset 10. La joie, les chants, la fierté, la beauté, l'exclusivité sont autant de valeurs marquantes pour ce temps si particulier et souvent unique de la vie. Plusieurs passages de l'Ancien Testament montrent que Dieu reconnaît, protège et honore les fiançailles. Jérémie, le prophète, mentionne à quatre reprises les chants des fiancés. ils sont signes de bénédiction, ou par leur absence de malédiction, pour toute la nation. Jérémie 7, verset 34, 16, verset 9, 25, verset 10, 33, verset 11. En Israël, le fiancé était exempté du champ de bataille et la fiancée protégée par la loi. Y a-t-il quelqu'un qui vient de se fiancer et n'a pas encore pu se marier? Qu'il retourne chez lui. Deutéronome 20, verset 7. Le viol d'une fiancée était puni de mort. Deutéronome 22, verset 25 à 26. Dans ce passage de l'Écriture, cet acte est comparé au meurtre. Mais que se passe-t-il si l'un, l'autre ou les deux fiancés, malgré des fondements solides et des fréquentations prometteuses, n'ont plus la conviction de poursuivre leur relation? Les chrétiens engagés ont-ils le droit de rompre leurs fiançailles? Joseph, fiancé de Marie, est un exemple étonnant. Voulez-vous un instant vous mettre à sa place? Marie, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit, avant qu'il n'ait eu de relation conjugale. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle. Pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. » Joseph, à son réveil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il reçut chez lui sa fiancée et la prit pour femme. Mais il n'eut pas de relation avec elle avant qu'elle eût mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 1, versets 18 à 21 et 24 à 25. J'aimerais souligner chez cet homme trois qualités qui n'ont rien perdu de leur force et de leur actualité. Premièrement, il se savait libre de rompre avec Marie. Deuxièmement, il ne l'a pas fait sur un coup de tête, mais a réfléchi avant d'agir. Troisièmement, s'il avait été conduit à le faire, il l'aurait fait tel un gentleman, c'est-à-dire sans scandale et sans l'attitude vindicative et justicière de celui qui s'estime outragé, mais discrètement pour ne pas blesser Marie. De plus, sa foi remarquable, son caractère droit et une grande maîtrise de soi ont grandement contribué au plan unique que Dieu avait pour lui et sa fiancée. Les chrétiens engagés ont souvent peur de rompre leurs fiançailles. Ils pensent que cela manque de sérieux, entache leur réputation et blesse l'autre de façon quasi irrémédiable. Ils se culpabilisent alors sans modération. Il est dangereux de considérer une rupture comme une catastrophe nationale. Assurément, ce n'est pas un acte à prendre à la légère, mais vouloir l'éviter à tout prix, en fuyant dans le mariage alors que les symptômes réels d'incompatibilité surgissent, est une folie. Même si les meubles sont déjà achetés et les faire-part de mariage envoyés, rien ne doit vous obliger à épouser sans conviction ou à contre-cœur votre fiancé. L'attitude saine à la préparation au mariage face à sa fiancée ou son fiancé s'exprime ainsi. Je t'aime assez pour te laisser libre de faire un autre choix, sans menace ni revendication. Il est vrai qu'on a cru être fait l'un pour l'autre, mais si tu n'es pas prêt ou prête à passer ta vie entière avec moi, je ne vais pas te menacer. Dépression, suicide, scandale familial. Tu es libre et je te souhaite une vie heureuse. Le mariage ne doit en aucun cas être fondé sur la manipulation, la pitié, le chantage ou la menace. Encore une fois, l'amour n'est vrai, beau et profond que s'il est fondé sur la liberté. On se fiance, bien sûr, dans la perspective de se marier, et rompre les fiançailles est certainement pénible. C'est cependant infiniment moins douloureux que de divorcer ou de vivre une vie d'enfer. Si ces mises en garde sont nécessaires, il est évident que la voie habituelle conduira vers de joyeuses noces. Les fiancés ne peuvent maintenant même plus envisager de vivre autrement qu'ensemble, et ils sont fiers de marquer cette union devant tous. Si Dieu le permet, ils créeront avec son aide des êtres nouveaux. Ces enfants marqueront à jamais cette alliance, puisqu'ils porteront le reflet de leurs deux parents. C. Le mariage. L'Écriture commence et s'achève par un mariage. Elle compare le royaume de Dieu à un roi qui organise des noces pour son fils. C'est lors d'un mariage que Jésus a fait son premier miracle. Genèse 2, 18 à 24. Apocalypse 19, verset 7. Matthieu 22, verset 2. Jean 2, verset 1 à 11. Le but de ces lignes n'est pas de vous donner un plan pour décorer l'église ou choisir un menu, mais de souligner la pensée biblique de cette célébration. Les composantes qui la caractérisent dans l'Écriture sont la préparation et la bénédiction divine. Les invitations et les invités, les habits de fête, le festin, les réjouissances et bien sûr la joie des mariés. L'élu dit de lui: il porte la couronne de mariage que lui a remise sa mère en ce jour où il est tout à la joie. Et il répond: que tu es belle, ma tendre amie, que tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux ont le charme des colombes. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11 et 4, verset 1. La joie, les amis, la beauté, l'originalité, le message que dégage cette fête sont des valeurs bibliques. Elle est le reflet de deux personnalités. Il est bon d'y penser ensemble, dans les grandes lignes, jusqu'au point plus secondaire. La jeune fille en aura certainement rêvé depuis sa tendre enfance, avec quelques désirs bien précis. Le jeune homme devrait y être attentif et sensible. Si la fête du mariage varie à l'infini dans ses couleurs et expressions, d'une famille, d'une culture, d'un pays et d'un continent à l'autre, elle marque cependant un tournant définitif et public. Dans n'importe quelle tribu, même la plus reculée, les gens savent discerner un homme et une femme mariés d'un homme et une femme libres. De la parenté aux voisins, en passant par les collègues et amis, ou encore pour les habitants du village ou du quartier, chacun sait désormais que cette femme appartient à cet homme et que cet homme appartient à cette femme. Une entité nouvelle est née. C'est mon mari, c'est ma femme. Nous pouvons ajouter que cette alliance se poursuivra le plus souvent par deux autres expressions tout aussi belles. Ce sont mes parents, ce sont nos enfants. Se marier dans l'intimité à deux ou se marier en secret a toujours tenté quelques couples pour diverses raisons, mais cette vision des choses n'a ni force ni racine biblique. Que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 4. Nous reviendrons dans les chapitres suivants sur les composantes de l'alliance qui se prépare et accompagne ensuite le couple durant la vie entière. Avant cela, parlons encore des finances concernant la fête du mariage. J'ai eu le privilège de voir des mariages aussi magnifiques que simples parmi de nombreux amis à Jeunesse en Mission. À une occasion, le marié n'a pu s'acheter son costume que le matin même du mariage. Une grande fête n'est pas synonyme de grande dépense. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ce dicton s'applique bien au mariage. Quand les finances dominent, elles incitent à l'orgueil. Beaucoup de jeunes repoussent de plusieurs années le jour de leur mariage pour des raisons purement économiques. La tradition leur dicte une liste interminable d'obligations quant aux cadeaux et achats à faire, la location de voitures et de salles, la cote du restaurant à choisir, le nombre d'invités, le standing de vie à avoir dès ce jour-là, et encore bien d'autres exigences familiales. Tout cela peut devenir une montagne insurmontable, voire écrasante, qui sent le prestige et la vanité. Le sourire de la mariée vaut mieux que toutes les cadillacs. Les rires laisseront un meilleur souvenir que les smokings, et une bonne équipe de vrais amis coûtera jusqu'à 100 fois moins cher que des serveurs amidonnés. Ce qui est grave, c'est de se marier avec 4 ans de retard pour vénérer Mammon. conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. Il est vrai qu'on peut toujours exagérer en sens inverse et le regretter par la suite. Mais un couple fidèle et sérieux aura beaucoup de plaisir à construire et améliorer petit à petit son foyer, même en commençant par un mariage et des conditions de vie modestes.